Il est 16h07 sur Est FM et comme annoncé, eh bien j'ai le grand bonheur d'avoir en face de moi deux messieurs. Alors il y a Martial Debrief qu'on connaît bien.
Bonjour.
Bonjour. Qui nous a emmené un grand personnage, le designer Jacques Cooper.
Bonjour.
Alors messieurs, d'abord on va, si vous le permettez, n'est-ce pas, on va parler à Martial Debrief qui nous a pas habitué à écrire ce style de livre, par exemple. Alors, c'est un voyage inédit.
Oui, c'est en fait un ouvrage consacré au TGV duplex. Et en fait, l'endroit où je travaille, dans ma seconde vie, j'aime en fait... Je suis arrivé là et j'ai découvert plein de gens qui travaillaient autour du TGV, au Technicentre de Bischheim.
Mais pourquoi? C'était à l'occasion d'une visite inopinée?
Oui, c'était à l'occasion d'une porte ouverte. Oui. Et j'ai trouvé cet endroit absolument extraordinaire. Et j'ai décidé d'y consacrer avec Marie-France Ascouette, qui est ingénieur, un ouvrage qui présente le TGV duplex dans vraiment toute sa splendeur et aussi sa complexité, parce que c'est un train absolument merveilleux. Et c'est au Technicentre de Bischheim, mais on ne le sait pas, dans notre région, qu'après 16 années et quelques mois, le TGV arrive après avoir fait des milliers de kilomètres.
Exactement. On l'a eu sur le tard ici.
Oui. et en fait, dans cet endroit, eh bien, quasiment 1000 personnes travaillent tous les jours à ce que ce TGV soit remis à neuf. Voilà.
Bon, ça, on en parlera après, lorsque on va parler de l'entretien des TGV. Et Marie-France Ascouette, vous l'avez connue aussi à Bischheim?
Ah oui, Marie-France Ascouette travaille à Bischheim. Elle est ingénieure à Bischheim.
Donc, hop là, vous avez mis le grappin dessus.
Ah ben oui. Hein?
Avec toutes les explications, qui c'est qui a eu l'idée d'écrire ce livre?
En fait, Marie-France Ascouette avait réalisé la totalité des affiches sur le parcours du visiteur. Et j'ai trouvé ces affiches extrêmement bien faites. Et puis, je lui ai dit, Marie-France, on va faire ce livre.
C'est super, elle était tout de suite d'accord.
Je lui ai pas laissé le choix.
D'accord. Donc c'est un livre qui est un hommage à la technologie française, hein, puisque c'est bien français.
Absolument.
Les autres nous ont copié.
Oui.
Pour une fois. Et aujourd'hui, vous nous avez ramené Jacques Cooper. Jacques Cooper, qui est donc le designer de ce TGV. Bonjour.
Oui, bonjour madame. Oui, je suis le designer depuis 1978. En application, mais au départ, j'ai démarré en 1968. Premier dessin que j'ai fait, c'est en 1968, suite à une visite avec des techniciens de la SNCF, qui m'ont parlé du train, bien sûr, parce qu'ils savaient que je m'y intéressais. Puis ils m'ont dit, est-ce que vous pourriez nous faire un train qui changerait le style de ce qu'on connaît d'habitude? J'ai dit, écoutez, oui, c'est possible. Et puis il y a un directeur qui était là qui a dit, mais c'est même pas ça qu'il faut dire. Je veux un train qui ressemble pas à un train.
D'accord.
Et c'est comme ça que ça a démarré. Parce qu'il me dit, vous dessinez des voitures? Je dis, oui. Et bien alors faites-moi un train qui ressemble à une voiture.
Ah d'accord. Donc vous avez dessiné le train avant ou après la DS?
Non, ça a été en même temps. C'était à peu près dans la même période parce que je travaillais sur différents projets. Oui. Et le TGV s'est trouvé incrusté dans la série, si je puis dire.
Oui. Et qu'est-ce que j'ai lu dans ce livre qu'on vous traitait un petit peu pour un doux rêveur, non?
Ah oui, mais un fantastique, là. Oui. Un fantasque. Oui, parce que je peux vous dire une chose, c'est qu'au départ, quand j'ai présenté les avant-projets que je proposais pour le TGV, c'était de faire quelque chose qui soit pas trop chemin de fer. C'était ça. Mais les anciens m'ont dit, mais votre train est peut-être très joli, mais on le fera jamais.
D'accord.
C'est ce qui m'a été dit à l'époque.
Et pourquoi ça le...
Parce que...
Ils voyaient pas ça.
Mais ces gens-là, c'était des anciens de la vapeur qui sont passés à l'électricité. Oui. Alors, passer de l'électricité au TGV...
C'est vrai.
Il y avait une telle marche qu'ils n'ont pas suivi.
Mais la TGV, de toute façon, ça marche aussi à l'électricité, non?
Bien sûr, oui.
Donc, il y avait d'abord le charbon.
Oui.
Hein, le vieux tchouk-tchouk.
Oui.
Et puis ensuite, il y avait...
Le diesel qui est apparu.
Oui.
Qui a permis de faire des autorails, des locomotives à diesel aussi. Oui.
Et ensuite l'électricité.
Après, il y a l'électricité qui est intervenue. Enfin, le point fort de l'électricité, c'est le 331 qui a été bâti en 1953. à l'époque. Et on pensait qu'on ne pourrait pas aller beaucoup plus loin. Mmh. À 331 km/h avec des machines électriques, ce n'était pas évident pour l'époque.
Oui, ben ça,
mais ça paraissait un coup de dé. Ouais. Et c'est un coup qu'on a essayé, mais ça ira pas de suite. Mmh. Et finalement, les locomotives électriques sont devenues de plus en plus rapides. Et puis c'est là qu'on s'est dit, mais on pourrait peut-être faire quand même autre chose que des locomotives électriques, on pourrait faire un autre train.
Ouais.
On voulait surtout, la direction SNCF voulait changer de matériel, parce que l'image de la SNCF était vieillissante, avec des vieilles voitures,
et
des vieilles locaux, il faut absolument faire autre chose. Et c'est comme ça que l'affaire a été lancée.
Mmh. Et les personnes qui vous ont dit que vous étiez un doux rêveur, est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce qu'ils vous ont vu après?
Ah ben je sais pas.
Ah vous savez pas?
Je sais pas, mais vous savez ce que j'avais dit à une région, au début on présentait le TGV, j'avais répondu à un ingénieur qui me dit, mais vous pensez que ça va marcher? Mais je dis, mais monsieur, il y en aura partout.
Oui.
Et là on m'a dit, vous êtes un doux rêveur, vous êtes un styliste, vous rêvez, vous pensez pas à la réalité.
Oui, bah, aujourd'hui, ils doivent se dire, eh ben non.
Ah ben, il est peut-être plus là pour y penser. Hein.
Mais si, vous êtes bien là. Et on va revenir même dans quelques minutes, parce que vous n'avez pas créé, dessiné que le TGV.
Non.
Beaucoup d'autres choses, et on en parlera tout de suite. Martial Debrief, on va revenir un petit peu à vous. Comment est-ce que vous avez rencontré Jacques Cooper?
Alors, c'est une très belle histoire en fait. J'étais en dédicace à Bruxelles et j'étais sur la rédaction en fait de l'ouvrage du TGV duplex et notamment d'ailleurs sur l'introduction de du livre, donc toute l'histoire du TGV. Et je vois en vitrine un ouvrage Cooper, celui qui dessina le TGV. Donc évidemment, j'ai acheté le livre immédiatement. Mm-hmm. C'est un livre qui avait une dizaine d'années déjà. Et je me suis installé dans le TGV de retour. J'ai vu que Jacques Cooper habitait la région parisienne.
Ouais.
Et puis j'ai consulté les pages jaunes.
Ouais. Mais vous avez eu le temps en TGV, de venir de Bruxelles à Paris, vous avez le temps de lire tout le livre?
Une bonne partie, oui. Bon, ça, c'était un très bel album, donc un album c'est plus rapide qu'un roman quand même.
Oui.
Et puis, le personnage quand même, c'est énorme, c'est le métro de Santiago, il va vous en parler lui-même, le métro de Santiago, c'est des dizaines de locomotives pour la Chine, pour la Malaisie, c'est énorme tout ce qu'il a pu faire pour le milieu du transport. Et je suis rentré, j'ai consulté les pages jaunes, j'ai trouvé un Jacques Cooper à Suresnes, donc j'ai appelé et j'ai laissé un message sur son répondeur. Je lui ai dit, eh bien écoutez, si vous êtes de la famille de Jacques Cooper, le designer, rappelez-moi. Et il m'a rappelé, il m'a dit, bien écoutez, jeune homme, c'est moi.
Mm-hmm.
Voilà, donc je lui ai dit, ben j'arrive. Et je suis allé le voir à Suresnes et on a passé un après-midi autour de sa carrière. Un enregistrement d'ailleurs magnifique que j'ai ici. Et ce qui m'a permis finalement de mieux découvrir l'homme et son œuvre et de faire les premières pages d'introduction du livre du TGV duplex, Un voyage inédit.
Parce que de toute façon, il n'y a pas... Là, c'est vrai qu'on parle beaucoup du TGV puisque c'est l'histoire, c'est le livre, hein, le voyage inédit. Mais en dehors du TGV, alors, la première rencontre, vous avez parlé de quoi? Uniquement du TGV ou vraiment de tout?
Non, j'étais venu essentiellement pour le TGV et puis j'avais devant moi quand même celui qui avait dessiné le TGV 001, le TGV Sud-Est, mais pas que l'extérieur, mais aussi les intérieurs, la moquette, les rideaux, les sièges, enfin tout. Enfin, j'étais rentré, j'avais quoi? J'avais une dizaine d'années dans ce TGV, donc c'était formidable. J'avais devant les yeux quelqu'un d'énorme pour moi. Et voilà, on est devenus amis et on a sympathisé. Et puis Jacques est revenu en Alsace une première fois. Il a été accueilli à la Cité du Train, mon Dieu, grandement. Ce qui est logique.
À Mulhouse, oui.
Et puis il est avec moi là pour quelques jours. On signe demain dans les trains dès 6h40 du matin demain.
Vous avez l'habitude d'être levé de bonne heure.
Oui.
Ah, c'est...
Pour les clients, l'axe TGV Est nous a organisé ça.
Ça va être super.
Voilà, et ça va être formidable parce que il a rencontré à la fois les cheminots. Il est venu à Bischheim et il a signé plus de 800 livres à des personnes qui étaient ahuries de le voir arriver comme ça, un peu nulle part. Et demain, eh bien, on rencontrera les clients qui, à mon avis, seront tout aussi intéressés.
Donc, finalement, si vous savez pas quoi faire demain, vous prenez le TGV, vous allez voir Jacques Cooper, vous allez voir Martial Debrief. Et puis, ils vont vous signer donc ces livres, c'est super.
Oui, on va...
Vous faites un aller-retour Strasbourg-Paris.
Ah, on fait demain Strasbourg-Paris, Paris-Reims, oui. Reims-Paris et Paris-Strasbourg. Voilà, c'est...
Oui, d'accord. Et vous revenez à Strasbourg, Jacques Coupert, non ?
Ah ben, je suis mon ami.
Ah, d'accord.
Comme le chien suit son maître.
Yeah. D'accord. Dites-moi voir, Martial nous a dit qu'il n'y a pas que le TGV que vous avez inventé ou du moins dessiné.
Ah, dites-moi, oui, dans ma carrière, j'ai commencé ma carrière de designer, parce que ça ne s'appelait pas comme ça. À l'époque, on disait soit styliste, soit esthéticien industriel. Je suis rentré dans un bureau américain. Qui était de Lowy, qui était un des grands patrons qui avait créé le design en Amérique et qui l'avait transplanté en France. Il avait ouvert un bureau et j'ai été engagé chez lui. Et ils m'ont mis à l'origine, je suis sorti de l'école Boulle, je savais dessiner des meubles.
Oui.
Et ils m'avaient mis à l'organisation du magasin de l'Hôtel de Ville, le bazar de l'Hôtel de Ville, pour refaire les rayons et les meubles. Mais j'étais pas tout seul, on était une équipe.
Oui, oui.
Mais ils m'avaient choisi parce qu'ils savaient que j'étais un technicien des meubles en particulier. Mm-hmm. Et puis, disons qu'un jour, il faisait de la prospection pour essayer de trouver des marchés d'études. Il avait trouvé une société qui était Patti Marconi, qui fabriquait des téléviseurs. Et leur vente marchait pas très bien, c'était des meubles faits en menuiserie classique. Et le patron de Patti Marconi a dit « j'aimerais bien trouver autre chose ». Et Louis a pensé à la question, il m'a dit « bon, je vais voir avec mes gars, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Puis le patron, un matin, il me tombe dessus, puis il me dit « dites donc, Cooper, vous savez faire des meubles, mais est-ce que vous sauriez faire un téléviseur ?» vous savez, j'ai regardé un peu bizarrement, je dis « peut-être, je sais pas ». Il m'a dit « oui, mais si vous faites un téléviseur, il faut pas faire un truc en bois ».
Ah d'accord.
Ah ça commençait bien, j'ai dit « en métal, je vais pas le faire, parce que ça fera une caisse de résonance, ça marchera pas ». Alors j'ai pensé au plastique, parce que déjà le plastique commençait à avoir une certaine extension dans la vie industrielle. Alors il m'a dit, écoutez, dessinez quelque chose qui puisse être fait en plastique. Alors j'ai fait une forme qui ressemblait un peu au téléavia qu'on a vu par la suite, mais moi c'était bien avant. Mmh. Et alors finalement, les projets, on les a lancés dans la nature aux fabricants de plastique, mais ils ont refusé parce qu'ils n'avaient pas de moule assez gros pour faire les appareils.
Oui, c'est vrai qu'à l'époque, les télés...
Les télés en bois, ils étaient comme ça, les trucs en plastique, ils étaient grands comme ça.
Oui, c'était tout
alors,
petit.
Alors, du coup, c'est tombé à l'eau, puis elle m'a dit, non, mais tant pis pour nous, ça n'a pas marché, ils se débrouillent avec autre chose. Puis d'autres produits sont présentés, puis un jour, il y a des gens de Sud Aviation qui sont venus le voir, parce que les hélicoptères, c'était des trucs en... Là, il y avait une espèce de bulle, et puis il y avait des trucs en ferraille derrière. Et les gars ont dit, est-ce que vous pourriez nous faire quelque chose avec ça? Et là, oui, dit au gars, oui, j'ai un gars qui, apparemment, va vous sortir quelque chose. Il a dit, il faut lui foutre la paix, vous dites ce que vous voulez, puis après, on le laisse travailler. Et puis, ils m'ont donné des plans qui étaient leurs plans à eux.
Ouais.
Je dis, mais qu'est-ce que je vais foutre de ce truc-là, moi? Alors, le truc qui était en ferraille avec des tubes dans tous les sens, je vais enfermer ça dans un fuselage comme un avion.
Ouais.
Et puis, c'est ce qui a été fait. Effectivement, ça donnait naissance à la loi de gouverneur, qui était un prototype. Qui a été utilisé par le président de la République à l'époque, d'ailleurs.
Ouais.
Et puis, alors, Sud Aviation, ils se sont dit, c'est un bon marché, mais il faut qu'on réétudie la question, parce qu'on ne va pas faire un avion, un hélicoptère en ferraille, avec des tubes dedans, puis de la ferraille autour. On va le faire directement comme un avion, une cellule volante. Et c'est comme ça que les alouettes sont apparues.
Et c'est vrai qu'elles ont volé longtemps, les alouettes, là.
Oh, les alouettes, ça date de 1958.
Ouais. On est en 2016, ça fait quand même une période.
Au début, il y en avait très très peu, parce que c'était fait à la main en aviation, ils n'étaient pas encore industrialisés.
C'était fait à la pièce, quoi.
Pardon ?
C'était fait à la pièce.
Ah oui, ils avaient vraiment tenu compte de ce que j'avais fait, si ce n'est que j'avais prévu des carénages qui étaient gênants pour la ventilation des moteurs. Alors ils ont dépouillé ça à leur façon, puis moi j'ai laissé faire. Et c'est ce que ça donnait, ce qu'on voit maintenant, tous les hélicos. Mais c'est toutes les petites filles de celui que j'avais dessiné.
Oui, les petits-enfants.
Ouais, c'est ça.
ça vous fait quoi quand vous voyez un hélicoptère comme ça? Ça vous laisse un peu rêveur si vous êtes fier de...
Ah, j'ai fait des vols en hélicoptère. je vais vous raconter l'histoire, elle est marrante. Au départ, j'étais allé à Sud Aviation. Les gens, j'ai rencontré les ingénieurs, les pilotes. Et il y avait un pilote d'essai qui s'appelait Boulet. Et j'ai dit, on me présente évidemment. Alors, je lui dis, vous êtes pilote d'essai? Il dit, oui, je suis là pour essayer les appareils, pour voir qu'est-ce que ça donne en vol. Et il me dit, ça vous intéresserait de faire un vol avec moi ? Un pilote d'essai, j'entends bien.
Oui,
hein.
Oui, oui.
Bah, je dis, oui, pourquoi pas. Ouais. Ben, j'étais donc au Bourget, où la base était là-bas. Mmh. Et puis j'ai eu la mauvaise idée de dire au pilote, qu'est-ce que vous savez faire avec ?
Ah, il a montré.
Oh, la vache. Il m'a eu, à part voler sur le dos, on a tout fait.
Oui.
Marche avant, marche arrière, monter, descendre, le cheval de course et tout.
Oui.
Quand je suis sorti de là, je tenais plus debout, j'avais mal au cœur, j'en pouvais plus. Il m'a dit alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui. Oh,
bah, je dis là, je crois que j'ai compris, je ne vous demanderai rien du tout.
Oui, oui. Donc ça vous a servi de leçon, vous faites les dessins et puis vous laissez faire les essais aux autres.
Ah ben, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si je fais un dessin pour tout produit que je prends en main, oui. Je fais des dessins, évidemment, des études, oui. D'approche, et après on fait des maquettes. Soit à petite échelle si c'est des grosses choses, si c'est des trucs naturels, on les fait à l'échelle normale, à l'échelle du produit.
Oui, donc
alors que ce soit des frigos, des machines à laver. Et alors après, ben, je me suis intéressé aux voitures, parce que Louis, c'est un passionné de voitures, il m'avait intéressé à ce truc-là. Il m'avait fait rencontrer ses stylistes de chez Studebaker. Et puis les gars ont vu que je dessinais pas trop mal, ils ont dit au patron, ben, il peut faire quelque chose de bien. Ah, mais moi, je ne voulais pas aller aux États-Unis, alors oui. Ils m'ont pas pris.
Ah, d'accord, vous voulez rester en France, quoi.
Bah oui, bah, j'étais marié déjà, mais j'avais un gosse, alors j'allais pas m'en aller là-bas.
Oui, d'accord.
Puis je parlais pas anglais. Je parlais pas anglais, je le comprenais un peu, mais je parlais pas anglais. Et puis bon, bah, là, j'ai quitté chez Lowy au bout de 7 ans. J'avais fait plein de trucs. Un tracteur. J'avais fait un tracteur, puis d'autres trucs, je ne me rappelle plus, il y en a tellement eu. J'avais une liste, il y en a plus de 250 trucs que j'ai fait.
Marcel, vous connaissez toute l'histoire, alors qu'est-ce que...
Oh, mais plein de choses. Le métro de Santiago, des dizaines de locomotives pour la Chine, pour la Malaisie.
Mais tout en restant en France, alors?
Ah oui, moi, j'ai jamais voyagé.
Ah d'accord.
Les dossiers venaient chez moi.
Oui.
Et je me rappelle, alors ça, c'est une autre aventure, une autre histoire. À l'armée, j'ai fait l'armée, évidemment, comme tous les Français.
Bon, à l'époque.
Du moins pour devenir Français, parce que sinon, j'étais pas Français. Et puis, c'est une histoire vraiment à cadabrandre. Une femme qui tirait les cartes aux gars.
Oui.
Elle me dit, elle me connaissait, on avait parlé, tout ça, elle me dit, je voudrais bien vous tirer les cartes. Bon, je vais me tirer les cartes, vous foutez de moi ou quoi, là? Alors, elle me dit, bon, voilà, ben, si puisque tu veux pas que je te tire les cartes, je vais te faire le coup de la tache d'encre. Si, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, tu fais une grosse tâche, il se plie pas bien en quatre, puis il va sortir un dessin. Et je te dirai ce que tu es.
Oui.
Et alors, c'était un énorme papillon qui est sorti.
Mm-hmm.
Elle m'a dit, ben, tu voyageras partout.
Oui, ben, uniquement par les dessins.
Alors. Ben oui, ben, voilà. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, elle se fout de moi. Mais quand je regarde le travail que j'ai fait, avec tous les pays avec qui j'ai travaillé, mais je pourrais faire le tour du monde en entier. Hein.
Oui, oui.
Facile.
Donc, c'est une façon de voyager tout en restant sur place.
Ben voilà. Bon. Ah, non. Puis je vais vous dire une chose, c'est que par rapport à tous les projets que je faisais, je ne pouvais pas me permettre de me déplacer, il fallait que je travaille. Oui. Je ne pouvais pas être à la ferme et au moulin.
Oui, en même temps.
Hein? Alors c'est comme ça, j'ai voyagé un peu par dessin transposé.
D'accord, bon, on continue à en parler dans quelques minutes. Jacques Cooper, on a parlé de beaucoup d'inventions, hein, de vos inventions, enfin dans les dessins.
Oui.
Et on n'a pas parlé ce qui est dans ce livre, Le Voyage inédit, d'une certaine voiture qui a la forme du TGV devant et qui a été dessinée avant.
Oui, oui, oui. Elle a été présentée au Salon Paris en 1970.
Oui.
Et c'était un prototype, simplement pour un constructeur qui voulait essayer d'acquérir des marchés de transformation. Il a voulu montrer ce qu'on pouvait faire avec une voiture. Donc cette voiture a été présentée au Salon de Paris. Malheureusement, ça avait intéressé des Américains, parce que j'étais au salon comme représentant de la marque, et je plaidais mon modèle, si je puis dire. Et l'Américain qui parlait pas très bien français, il me dit, quand même, j'ai compris dans son charabia, il en voulait 500.
Oui.
Mais rapidement.
Ah oui, d'accord.
Alors j'en ai parlé au patron, qui était le carrossier. Il me dit, mais moi, 500, je peux pas financer ça. Faut que Porsche m'aide, parce que c'est eux qui fournissent la voiture de base. Mais Porsche, ils voulaient pas se lancer là-dedans, parce que Il ne voulait pas financer la dérivée, la voiture, il ne voulait pas la financer. Alors du coup, ça a tourné court, ça n'a pas marché.
Mais il y en a une quand même qui...
Ah oui, oui, ben, elle roule.
Elle roule encore aujourd'hui.
Ah oui, j'ai roulé avec, moi.
Ah oui.
Ah ouais.
Et c'est une Porsche...
C'était une 914.
Porsche Muren.
Ouais. Ouais.
Et c'est, elle est différente des Porsche habituelles. Le moteur n'est pas à l'arrière, il est juste au milieu de la voiture, derrière le conducteur, dans le dos.
Mais ça doit chauffer, là, non ?
Non, c'est non, très non. Bien isolé.
C'est vrai ?
Ah ben, on l'entend un peu, quand même.
Oui.
D'ailleurs, il vaut mieux entendre le moteur d'une voiture que quand on ne l'entend pas, c'est que ça ne va pas très bien.
Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un propriétaire alsacien. Qui a cette voiture, le okay. Seul et unique. Et quand, en fait, Jack Cooper est venu pour la toute première fois en Alsace le mois dernier, en décembre, le propriétaire est venu avec cette Porsche Muren. Voilà.
Rien que pour,
pour lui, évidemment.
Ah ben, il voulait me la montrer parce que j'avais eu au téléphone. Je savais que c'est lui qui l'avait acheté. Mais j'avais dit, à l'occasion, je serais content de vous voir et puis de la revoir. Et là, il a profité de l'occasion qu'on était à Strasbourg pour pouvoir l'amener. Il habite à Strasbourg, de toute façon, enfin, dans la banlieue de Strasbourg.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous l'aurez remarqué, tous les grands designers de trains sont des gens qui ont travaillé sur les voitures avant, ce qui a été aussi le cas de Bugatti.
Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et tout à l'heure, on a parlé hors antenne. Vous avez donc été voir le musée du train du côté de Mulhouse, ce qui est normal.
Oui, oui.
Mais également, puisque c'était dans la même période,
oui.
Vous avez dessiné des voitures.
Oui.
Vous avez été également au musée de la voiture.
Oui, mais j'y retournerai. Enfin, là, j'y suis allé hier, mais on a fait une visite. J'ai vu beaucoup plus de choses, mais il faudrait que j'y retourne encore parce qu'il y a plusieurs centaines de voitures. Ben, j'aimerais bien les regarder les unes après les autres.
Mais vous continuez à dessiner ?
Non.
Non, du tout.
Pour moi.
Oui.
C'est ce que j'appelle des croquis mémoire d'idées. Mais ça, je ne les montre pas parce que je fais des frais piqués. Ah non, là, il faut que je sois prudent parce que à l'époque, j'étais généreux, je publiais des trucs dans la presse et tout. Mmh. Et je me suis aperçu que tout le monde grappillait là-dedans.
Vous cherchez des idées chez vous dans vos dessins ?
Ah oui, mais c'est même pas piquer des idées, c'est carrément copier le truc.
Ah oui, d'accord.
Ah oui. Il y a l'espace de Matra qui est sorti, c'est un dessin à moi.
Oui.
Pardon. C'est un dessin à moi, cette voiture-là.
Oui.
C'est tout, j'ai rien pu faire parce que le patron m'a dit, laisse courir, ça n'a pas d'importance.
Ah bah oui, le patron, il n'était pas...
Il est peut-être intéressé dans le truc aussi. Vous savez.
On ne sait pas et on ne veut même pas le savoir.
Ouais, j'aime mieux pas savoir.
Oui. Donc, que se passe-t-il maintenant ? Vous ne dessinez plus. Mais finalement, on peut protéger aussi ses œuvres.
Oui, mais à l'époque, j'y pensais pas. Faut déposer le modèle.
Oui.
C'est des frais, c'est des dossiers, c'est tout un tas de choses. Mais j'avais pas le temps.
Ouais.
Le nombre de dessins est incommensurable, il y en a de partout.
Mais aujourd'hui, vous pouvez faire un dossier et puis le protéger, non ?
Oh, c'est trop tard.
Non,
puis mes dessins sont datés.
Ouais.
La date, elle est bien trop dépassée, c'est pour couvrir sur le moment. Ouais, si c'est 15 ans ou 20 ans après, ça ne marche plus. Ça passe dans le domaine public, de toute façon. Alors.
Même les dessins
privés ?
Ah oui, d'accord.
Ça peut être publié, puis on ne peut rien dire, c'est comme ça.
Ouais, bah, c'est le...
Pour les Français et puis pour la postérité. Et puis il a fait des choses qui sont tellement magnifiques les unes à côté des autres.
Ouais.
Donc,
bon, Martial, alors que se passe-t-il maintenant pour la suite ? Vous allez donc partir pour faire des dédicaces dans le TGV.
Oui.
Mais j'ai aussi entendu dire que Jack Cooper avait écrit des livres, d'autres livres, non ?
Non, il y a un livre qui lui est consacré.
Ah, c'est un livre qui est consacré ?
Qui est consacré à Jack Cooper. On a des projets. On a des projets pour les temps futurs
On
va certainement exporter ce livre ailleurs qu'en France.
Oui.
Voilà.
Dans tous les pays qui ont profité des dessins, en fait.
C'est ça, et aussi parce que le TGV est un train qui est absolument adoré un peu partout dans le monde, et il intéresse. Donc, on aura certainement des traductions dans le futur, et ce qui nous permettra aussi de présenter Jack Cooper dans les pays où il a travaillé, puisqu'aujourd'hui en Chine, quand vous baladez en Chine, bien quand vous voyez les locomotives chinoises, ce sont celles qui ont été dessinées par Cooper.
Oui, Et c'est, ça n'a pas été copié, imité?
Non. Non, là, c'est les Chinois, ils ont exploité directement.
D'accord.
En exploitation, j'entends. Ils ont peut-être fait des modèles après pour eux, mais ça n'est pas sorti de chez eux, c'est resté chez eux.
Ben ça, c'est bien. Au moins ils sont restés corrects, non?
Ah ben, les contacts que j'avais eu avec eux sont des gens très honnêtes.
Maintenant, on va parler du TGV. C'est vrai qu'il y a eu, de temps en temps, il y a des accidents malheureux qui sont souvent... dû à des erreurs humaines, hein. Mais parce que le TGV, j'ai lu dans ce livre, lorsqu'on les révise, on les révise de A à Z.
Oui, en fait, le TGV arrive au technicentre de Bischheim et il est entièrement, il ne reste plus rien.
Oui, c'est assez curieux parce que je me dis, mais comment ils vont retrouver les pièces pour les remettre ensemble?
Ah, mais ce sont des gens passionnés qui travaillent là-bas. Il y a quasiment 1000 personnes qui sont au service de ce TGV et je peux vous garantir avec une passion qui est remarquable. Les agents de Bischheim sont vraiment des personnes qui sont très pointilleux. Qui ont un métier aussi très pointu. Et en fait, quand vous allez sur, par exemple, un examen non destructif avec un agent, il vous explique en long, en large et en travers des techniques qui est absolument merveilleuse.
Parce que le train est désossé de, que ce soit les moteurs, les roues.
Tout est démonté complètement.
Hein. Éléments de confort. Et toute la sécurité, les moteurs, tout est enlevé. Et en fait, c'est remonté avec, évidemment, en ayant fait bien attention que tous les éléments de sécurité, tous les organes puissent revivre pour 16 ans et tous les éléments de confort qui sont à l'intérieur puissent revivre également pour 16 ans. Et c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que quand le TGV part de Bischheim, du technicentre de Bischheim, de cet endroit fermé où on se dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe derrière ?» Eh bien...
Il est tout neuf.
Ouais. C'est super. Et donc, c'est ce qui est très bien expliqué dans ce livre. Si vous êtes passionné donc de train, tout est expliqué dans ce livre. Un voyage inédit.
Oui, et c'est un livre, on l'a voulu grand public. C'est-à-dire que même si on a dû interroger des dizaines d'ingénieurs pour écrire ce livre, notre travail a été de vulgariser, entre guillemets, l'information tout en faisant très attention à respecter la totalité des informations qui ont été en fait données dans cet ouvrage. Donc, en fait, le passionné, la personne qui même ne connaît pas forcément les trains et le TGV, va découvrir un autre monde à travers ces quelques pages. Et vous apprendrez plein de choses, parce qu'il y a plein de « le saviez-vous ».
C'est facile à lire.
Oui.
C'est à la portée de quelqu'un qui n'a pas de culture particulière dans le ferroviaire.
Oui, moi j'ai réussi à le lire.
Non, mais c'est très bien expliqué, les photos sont parfaitement choisies. C'est vraiment la première fois que je vois un livre didactique, si je puis dire, de cette qualité-là. Parce qu'il y a des trucs, soi-disant de vulgarisation, mais c'est écrit par les ingénieurs, alors ils écrivent comme s'ils parlaient aux gens de leur métier.
Oui, donc
les gens comprennent pas. Oui. Moi, j'en ai chez moi des bouquins comme ça.
Oui.
C'est des ingénieurs qui ont écrit, mais j'ai l'impression de lire du grec que je comprends pas. Non, c'est pas ça.
Et c'est vrai qu'on apprend dans ce livre, par exemple, que dans une motrice, il y a 40 km de câbles. Enfin, vous voyez, c'est plein de choses très, très didactiques.
Et même toutes les peintures sont refaites, d'après ce que j'ai vu.
Tout à fait, oui. Avec la nouvelle livrée, et puis également le Ouigo, le train bleu, le train finalement. Low cost, si on peut l'appeler comme ça, qui est en fait refait à Bischheim, qui est fait à Bischheim à travers une opération Mivi.
Donc c'est le TGV, le titre exact, c'est TGV Duplex, un voyage inédit, donc lifting total. Hein. Moi je lis ce qu'il y a écrit pour une métamorphose.
C'est ça.
Ça c'est le titre exact, c'est paru à Est Libris.
Oui.
Aux éditions Est Libris. Martial Debrief, Marie-France Asquette. Et à l'intérieur, on parle, bien entendu, il y a une belle dédicace à l'attention de Jacques Coupel.
En fait, il est dédicacé, l'autre, je l'ai dédicacé.
Ah non, mais vous allez le faire.
Ah bah oui, alors, oui.
j'y compte bien, c'est pour ça que j'allais.
Ne vous inquiétez pas, madame, ça sera fait.
En tout cas, un grand merci aussi à cette radio qui est absolument formidable. Ça fait des années qu'on se connaît, Hélène.
Oui, c'est vrai.
Et je voudrais vraiment vous dire merci de me recevoir et de me recevoir avec Jacques depuis tant d'années. Je peux même vous dire une chose, c'est que les auditeurs qui, enfin les lecteurs qui me suivent un petit peu partout, eh bien quelquefois, je reçois un message, Annie qui m'envoie un petit message et qui me dit, oh là là, y a tu passes sur STFM, je vais l'écouter en replay. Donc c'est super le site internet et merci de donner cette qualité à vos auditeurs, Hélène. Merci beaucoup.
Et Martial, un dernier mot avant, on vous revoit quand pour
un roman?
Oui.
L'année prochaine.
D'accord.
Là, il le mijote, là.
Oui, oui. C'est en train de mijoter, d'accord. Non, merci, Martial Debré.
Je voulais vous dire quelque chose. C'est un additif à ce qu'a dit mon ami. Oui. Quand ils refont le TGV, les tissus des sièges sont tout remplacés, les moquettes, tout est remplacé.
Donc, c'est du neuf.
Bah, parce que quand des trucs ont 15 ans, vous savez, c'est dans un drôle d'état.
Oui.
Alors, les sièges sont refaits, regarnis. Et les sols, tous les revêtements intérieurs qui peuvent être détériorés, tout est remplacé. C'est vraiment tout neuf.
Ben c'est super.
C'est formidable. Voilà. Hein.
Ah oui. Parce que quand les gens rentrent dans un truc rénové comme ça, ils sont à l'intérieur, ils voient que c'est très propre. Mmh. On leur dit que c'est les mécanismes qui a été réparé, mais ça fait partie du tout. Oui, c'est vraiment tout. C'est les vraiment... peintures, on refait tout. Mmh. Tout est refait. Les tissus, tout est refait.
C'est l'image de marque un peu.
De l'entreprise, absolument.
Oui, oui. C'est un renouveau, un renouveau du matériel. Hein,
c'est chapeau à tous les gens qui travaillent là.
Mais ils sont vraiment. Moi, je l'ai dit d'ailleurs.
Oui, oui.
Je leur ai dit que j'admirais leur travail. C'était du travail d'artiste.
Mm. Ah, ils sont formidables. Mm. Formidables.
Bon, on va leur faire un petit coucou, puisqu'il y en a qui nous écoutent.
Ah oui, vous savez que vous êtes écoutés à Bischheim aussi.
Alors, on leur fait un grand coucou. Merci, Martial.
Merci à vous.
Merci, Jacques Cooper.